Good afternoon to the delegation. Excellences,
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ici présente et à Lima. Je vais aborder deux questions, la violence contre les enfants, puis un peu plus tard, les enfants porteurs de handicap. Tout d'abord, la violence contre les enfants. Et j'espère, alors si mes propos sont quelque peu dramatiques, c'est à dessein. La violence contre les enfants semble revêtir une ampleur épidémique au Pérou. Vous avez parlé d'un véritable fléau et je suis fort alarmée par votre rapport et par vos remarques qui semblent surtout souligner les progrès législatifs. Mais l'on n'a pas un sentiment qu'il y a une mobilisation urgente en vue de lutter contre la violence à l'égard des enfants. La question essentielle que je souhaite donc vous poser et que j'ai déjà posée à plusieurs reprises à la société civile, où les enfants péruviens sont-ils en sécurité? Où les enfants péruviens se trouvent-ils en sécurité? Alors, nous disposons de certaines statistiques, mais elles remontent à 2019, suite au sondage que vous avez mentionné, et nous souhaitons avoir des données ventilées plus récentes. Quels sont les pourcentages aujourd'hui des filles de moins de 18 ans qui ont été victimes d'abus sexuels et qui sont les auteurs de ces crimes? Je pose la question parce que certaines publications épidémiologiques précise que le Pérou est le pays d'Amérique du Sud ayant le taux le plus élevé d'atteinte sexuelle. À cela s'ajoute la tolérance sociale face à la violence. Le sondage national de 2019 précise que 21% des répondants adultes estiment que s'ils ont connaissance d'un cas d'atteinte sexuelle contre un enfant, il vaut mieux ne pas intervenir. Nous avons même entendu que les atteintes sexuelles sont considérées dans certains cercles comme étant une pratique culturelle tolérée. D'après ce que j'ai lu, les enfants ne sont pas en sécurité chez eux. Plus de 50% d'enfants signalent avoir fait l'objet de violences physiques, ne se sentent pas en sécurité à l'école, puisque le personnel chargé des écoles est responsable d'une partie importante de cette violence physique et l'on entend des rapports élevés faisant état de violences aux mains des enseignants. Et je n'ai pas pu trouver des données spécifiques liées à la sécurité des enfants en institution ou de manière plus générale en dehors de l'environnement familial. Pour ce qui est des châtiments corporels, le Pérou a interdit les châtiments corporels dans tous les contextes depuis 2015 et c'est un pays phare s'agissant du partenariat mondial pour mettre un terme à la violence contre les enfants. C'est un engagement volontaire à agir. Mais quelles sont les mesures prises pour donner effet à la loi 30403 interdisant ces châtiments corporels? Lancez-vous des campagnes de sensibilisation pour réduire le nombre de parents qui estiment que les châtiments corporels sont une approche pédagogique légitime? Dans vos remarques liminaires, vous avez évoqué des chiffres que je trouve tout à fait inquiétants concernant la disparition entre 700 et 800 enfants âgés de 12 et 17 ans chaque mois depuis 2024. Comment réagissez-vous à cette situation tout simplement choquante? Combien d'enfants ont pu être retrouvés? Quelles sont les mesures que vous prenez pour remédier à ces chiffres tout à fait inquiétants? Nous avons été informés du fait qu'il y a un mécanisme d'alerte Amber, mais l'on nous dit également que la police hésite à lancer ces alertes dans un grand nombre de situations. Pourquoi? Quelles sont les mesures prises au niveau le plus élevé pour prévenir ces situations? Quelles mesures de prévention pourraient être prises de manière à lutter contre ce phénomène et à faire en sorte que le système judiciaire et la police y répondent mieux? Mon collègue Luis Pedernera l'a déjà évoqué, et nous l'avons vu dans les rapports, la violence sexuelle sévit particulièrement en milieu rural et ce sont les enfants autochtones qui en sont le plus victimes. Je ne vais pas reprendre la communication tout à fait choquante que nous avons reçue concernant une jeune fille péruvienne victime de violences incestueuses et qui n'a eu accès à l'avortement thérapeutique. Cela est un exemple de la situation au Pérou. Vous l'avez mentionné, il y a des cas de violences sexuelles dans le district de Condorcanqui et autres zones reculées. Le bureau du médiateur a déjà recensé des centaines de cas qui remontent à plusieurs années aux mains des enseignants dans la région. Pouvez-vous nous dire si des enseignants ont été condamnés? Quelles sont les procédures en cours contre ces enseignants et quels sont les résultats de ces procédures? D'autres sources, et vous l'avez mentionné vous aussi, Madame la chef de la délégation, font état d'un signalement insuffisant. Mais lorsque les familles ou les victimes soumettent des plaintes, ces plaintes ne sont pas acceptées ou il arrive parfois que l'on demande aux familles de mener l'enquête elles-mêmes. Pourriez-vous nous préciser quels sont les efforts consentis dans la formation de la police, des procureurs, des juges et surtout des travailleurs sociaux s'agissant de cas dans lesquels les enfants sont victimes de violences sexuelles? Nous avons une liste d'accusations contre les membres du clergé. Pouvez-vous faire état de cas débouchant sur des condamnations claires? Quelles sont les poursuites à l'égard du clergé? Pourriez-vous également nous fournir davantage d'informations sur la situation des enfants LGBT? Nous avons également reçu des informations fort préoccupantes. Encore une fois, les chiffres sont éloquents. L'on voit que le système de protection sociale n'est pas efficace pour les enfants au Pérou. N'est pas efficace pour les enfants au Pérou. Je ne veux pas vous